Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une femme fine dans son savoir-faire et consciente de son savoir-être. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine. Femme d'aujourd'hui.
Nargis Loudi, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui, Leila Nargis. Comment ça va ?
Je vous en prie. Merci Yasmine. Très bien. Et vous ?
Très très bien. Berlik, je suis très heureuse de pouvoir discuter avec vous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes une spécialiste, une experte en communication et en médias. Vous êtes également une experte internationale en négociation complexe et influence. Vous êtes aujourd'hui la présidente de l'Agence marocaine de la négociation. On dit que la négociation est souvent confondue avec le marchandage. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, tout à fait. Enfin, je vais dire ça d'une manière absolue. Oui. Hein. Si on va un peu transposer la négociation dans des sociétés comme la nôtre, il n'y a pas de limite encore entre le marchandage et la négociation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réfléchi longuement et j'ai décidé d'ouvrir une agence qui s'occupe de la négociation et c'est-à-dire de rendre ce métier à part entière un métier, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui adoptent par la force des choses, par le besoin qu'ont nos entreprises et nos décideurs d'organiser leur démarche dans la négociation et de rompre entre la limite connue entre le marchandage et la négociation.
Mmh. Donc la négociation se base sur un processus.
Tout à fait.
Ok.
Tout à fait. Alors,
on va y aller petit à petit, mais comment être dans la négociation lorsque l'autre est dans le marchandage ? Tout simplement parce que c'est ce qu'il a toujours fait et qu'il n'a pas les outils que celui qui est en position de négociation détient.
Alors justement, en situation de marchandage dans l'absolu, je vais peut-être la ramener à une situation classique de négociation, c'est quand vous partez par exemple acheter quelque chose au marché, qui vous dit par exemple que le marchand vous dit c'est à 20 dirhams, vous dites non 18, il dit 18, vous dites 16. Ça, c'est du marchandage que nous avons appris dans nos souks, dans nos marchés. C'est un peu oriental, occidental, ça va dans toutes les sociétés. Mmh. Et c'est notre manière à nous de ramener le prix quel qu'il soit, ou ce qu'on nous demande, quelle que soit sa valeur, à un prix inférieur, à une valeur inférieure pour satisfaire un besoin. C'est-à-dire que dans ce processus d'achat, on se pose toujours dans la tête la question ou la supposition que le vendeur nous arnaque. Donc, mmh. que le produit qu'on achète n'a pas sa juste valeur. Donc pour nous, on va aller ramener ce prix à moins. Ça se passe dans tous les métiers du monde. C'est-à-dire que ça va du simple vendeur de tomates au vendeur de biens, au vendeur. Ça peut même aller aux fusions-acquisitions de grandes sociétés.
Okay.
Ça, c'est dans les mindsets. Maintenant, quand on parle de négociation, la démarche, elle change. Pourquoi ? Parce que pour rentrer en négociation, d'abord, il faut qu'il y ait un intérêt commun.
Mmh, absolument.
Pour qu'il y ait un intérêt commun, on va aller le chercher. On va aller d'abord exprimer un désaccord, parce que s'il n'y a pas de désaccord exprimé, je peux continuer à négocier avec vous jusqu'à demain, vous ne me dévoilez pas votre face, je ne sais pas si vous êtes d'accord, pas d'accord, vous avez envie de travailler avec moi, de ne pas négocier avec moi, je ne sais rien de vous. Donc tout le travail se fait autour de la recherche d'un objectif commun et d'un intérêt commun, et des enjeux de cette négociation et des objectifs.
Ok, pardon. Mais alors justement, dans cette phase-là de recherche d'intérêt commun, dans la tête encore une fois de beaucoup, la négociation, il y a aussi cette part d'ombre. Je ne dois pas dévoiler mes cartes pour garder le dessus. Si je démontre l'intérêt que j'ai, c'est que je démontre une faiblesse.
Tout à fait. Alors justement, ne pas dévoiler ses cartes, c'est une technique. Maintenant, quand vous êtes une professionnelle de la négociation ou que vous avez appris les principes de la négociation, les essentiels d'une négociation, vous allez savoir par des techniques de questionnement, par des techniques bien sûr corporelles, par de l'analyse du comportement.
Okay.
Il y a aujourd'hui des techniques qui peuvent dévoiler, si on pousse loin le bouchon, qui peuvent dévoiler si une personne a un intérêt ou pas.
Excellent.
Il y a des fois des micro-expressions du corps Ils peuvent vous dévoiler la satisfaction d'une personne alors que son discours est complètement à l'opposé de ce qu'elle demande. Et là, on sait très bien que quelqu'un qui dévoile une joie ne peut pas aller continuer à vous dire « non, j'accepte pas », alors que son corps le trahit. Donc forcément, nous, on sait comment driver vers le closing, mais en tout état de cause, pas tout le monde est pro d'une négociation et pas tout le monde détient les armes. Mais ce que j'essaye aujourd'hui d'apprendre ou ce que j'essaye d'instaurer comme pratique, c'est que les gens doivent d'abord travailler, parce que travailler une négociation, d'abord c'est 80% de préparation avant d'entamer une négociation. Et la préparer, c'est pratiquement l'obtenir. Donc déjà, il faut, quelle que soit la situation, des fois même une maman qui négocie avec ses enfants un petit déjeuner ou changer ses habits ou aller faire les courses, c'est une négociation au quotidien. Donc d'abord, il faut se préparer à la négociation et il faut aller amener l'autre à dévoiler ses cartes d'une manière subtile, parce qu'il y a des manières subtiles de le faire.
Il y a de la neuroscience aussi dedans.
Exact, c'est ça. Énormément. Énormément. Et si la personne ne se dévoile pas, ou si on est face à une personne qui exprime le conflit, le désaccord, mais qui reste quand même braquée, il y a aussi des techniques pour les ramener à soi.
Et il y a aussi Sabatna.
Tout à fait. Ça, c'est une autre technique. Mais voilà.
Super.
Vous
avez déjà pensé à ouvrir un institut de formation ?
Pardon ?
Vous avez déjà pensé à lancer un institut de formation ou des modules de formation en négociation ?
Alors, l'institut de formation, justement, il existe depuis 2020. Il a eu la malchance d'ouvrir en plein confinement.
Okay.
Il a été lancé en mars 2020. Et on a dû arrêter une première année pour les conditions sanitaires qui existaient dans le temps. Et aujourd'hui, l'institut, il est opérationnel. Il forme une à deux promotions par an en des managers en négociation complexe et de crise. Et on fait appel à des experts internationaux qui sont notamment dans des unités spéciales d'élite ou des forces spéciales pour apprendre justement à nos managers au Maroc les techniques et l'expertise des équipes du RAID, du GIGN, des équipes des forces spéciales appliquées à l'entreprise.
Excellent.
Donc on a commencé par les cadres et les dirigeants parce que c'est cette catégorie-là qui est plus en affinité et en appétence au conflit, en affinité avec les formations. Mais on fera certainement des formations pour le public dans le futur. Ça,
ok. Alors, Nargis, justement, comment je peux vous définir ? on déteste se mettre dans des cases, mais on a besoin aussi d'être mis dans une case pour pouvoir être situé par les gens. Nargis Loudi, alors vous êtes une femme de communication, mais dans la communication, on peut mettre la négociation aussi. Vous êtes une femme des médias, vous êtes une chef d'entreprise. Vous êtes dans la formation. Professionnellement, vous vous définissez comment ?
Comme un caméléon.
Yeah.
je suis d'abord financière de formation.
Ouais.
Et ma spécialité, c'est la bourse et les marchés des capitaux. Donc, j'ai atterri par pur hasard dans la communication.
Okay.
Et en travaillant, c'était ma première expérience professionnelle au Maroc. En travaillant dans la communication, j'ai touché à beaucoup de métiers. J'ai touché à l'affichage publicitaire, j'ai touché à la télévision, j'ai touché à la radio, j'ai touché à la presse. Et dans la vente des médias, c'est souvent un métier commercial qui requiert d'abord beaucoup de préparation, beaucoup d'agilité, beaucoup de déplacement, mais surtout beaucoup de négociations. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans des métiers qui bénéficiaient peut-être d'un privilège à un certain moment de leur vie. Et on était en quasi-monopole. Et quand le monopole a sauté, et ben là, les techniques de négociation étaient devenues un peu impératives.
C'est ça.
Maintenant,
votre prise de conscience par rapport à ça, je ne veux pas être dans le marchandage. Je veux être structurée dans ma manière de négocier. Je veux détenir les outils de la négociation propre. À quel moment avez-vous eu ce déclic, cette clairvoyance ?
Alors, le déclic, il y a eu plusieurs événements qui ont créé ce déclic. D'abord, côté négociation commerciale, je n'ai jamais eu d'effort à fournir parce que je suis limite, je le fais d'une manière naturelle. Et
okay.
J'obtiens ce qui est juste pour moi et pour l'autre d'une manière naturelle. Mais le vrai déclic, je l'ai eu, je pense, en 2013. Oui, je l'ai eu en 2013 où j'ai été attaquée à main armée. Par des malfaiteurs qui m'ont posé un pistolet sur le front et qui m'ont demandé de rendre tout ce que j'ai.
À la maison ou au travail ?
Non, à Paris, en plein champ. Pardon. à Paris, en plein Champs-Élysées.
D'accord.
Et donc,
devant
voilà,
tout le monde, en plein jour ?
En pleine nuit, non, en pleine nuit. Hein. C'était en été en déplacement pour le SMAP immobilier de Paris.
Ok.
Et au retour à l'hôtel le soir, on a été attaqué. J'étais pas seule, on était à plusieurs. Et justement, j'étais la personne qu'ils ont choisi pour mettre le pistolet sur le front. Oh. Donc, j'ai négocié pour les autres et j'ai eu de la chance. Parce que cette nuit-là, d'abord, je ne portais rien sur moi. Je n'avais ni sac, ni montre, ni téléphone, ni rien. Mm. J'avais tout laissé dans la voiture. Et je risquais gros parce que la personne en face de moi, elle avait les pupilles dilatées. Elle était dans une sorte de transe.
Ouais.
Et voilà. Et je voyais venir la balle. Et donc, j'ai négocié pour les autres. Je m'en suis sortie.
Ça veut dire quoi, négocier pour les autres ? Vous avez dit quoi ?
Eh bien, j'ai parlé à la personne. J'ai dit, écoutez, voilà, nous, on est marocains. Bon, j'ai un peu compris de sa manière de parler qu'il était peut-être algérien ou tunisien. J'ai essayé d'un
l'accent.
Peu de comprendre voilà, l'accent.
Mmh.
Et puis la personne, il était jeune. Je lui ai dit, vous savez, je lui ai parlé limite spontanément. J'ai dit, écoutez, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Donc, si vous me tuez, ça sera un post sur Facebook et basta les amis. Personne ne va pleurer Nargis, d'abord. Deuxièmement, j'ai rien. J'aurais bien aimé voulu vous donner une montre ou un téléphone, de quoi vivre peut-être un mois ou deux, mais je n'ai rien sur moi pour de vrai. Donc, si vous me tuez, vous n'avez rien gagné. Vraiment. Et choisissez ce que vous voulez. Bon, de toute façon, moi, je fais ma shahada, je commence à shahad. Je dis, la ilaha illa Muhammad Rasulullah, vous pouvez tirer si vous voulez. Et le gars, il m'a dit, M'selmin, bon, il a insulté, il a dit un gros mot. Ou M'selmin, j'ai dit oui, M'selmin, et on mourra, M'selmin, on va pas mourir en lâche, il n'y a pas de problème. Et comme si j'ai débranché quelque chose. Il a baissé son revolver, il a baissé la tête, il est reparti dans la voiture, et ils ont démarré. Et là, c'était un épisode qui sortait d'un film d'horreur.
Ah oui, mais complètement.
On était bloqués. On est parti voir la police, qui était juste sur les champs, on pleurait. On était vraiment, mais vraiment, c'est là où on a eu la vraie crise. Et on s'est dit, aujourd'hui, les amis, on a eu de la chance, mais la prochaine fois, on ne l'aura pas. Alors, quelques mois plus tard, on était à Milan. Et pareil, même scénario qui se répète, mais cette fois, ce n'était pas un pistolet, c'était un couteau.
Oh là là. Une autre attaque ?
Une autre attaque, de la même manière.
Avec les mêmes personnes ?
Pas les mêmes personnes, ouais. D'autres personnes, mais c'était pareil. Mm. Et je leur disais, écoutez, vous ne trouvez pas qu'on a un peu de chance ? Parce que c'est vrai qu'on a pu négocier une première et une seconde, mais vous ne trouvez pas que c'est juste qu'on a eu affaire à des gens un peu gentils, ou à des malfaiteurs un peu gentils, et sur qui on a pu avoir du pouvoir pour qu'ils se rétractent ? Mais si on était tombé sur un pervers ou sur quelqu'un de paranoïaque, de fou, complètement déséquilibré, il aurait pu quand même passer à l'acte. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à réfléchir. Je me suis dit, il faut structurer sa démarche. J'ai des capacités de négociation, oui. Je peux parler à l'autre, je peux le déstabiliser. Ça, c'est quelque chose de naturel que j'ai en moi. Je peux manipuler l'autre, ça m'arrive. Mais aujourd'hui, j'ai sauvé ma vie, celle des autres. Demain, peut-être, ça ne sera pas le cas.
Mais négocier, ce n'est pas manipuler, justement.
Justement, ça n'a rien à voir.
La vraie négociation n'est pas dans la manipulation.
Quand l'enjeu est la vie.
Oui, complètement.
Quand l'enjeu est la vie, vous pouvez manipuler, croyez-moi.
Ah, ouais, ouais,
vous allez tout faire.
C'est incroyable. En fait, ça émane d'une histoire vraiment personnelle. C'est pas un marché perdu où là, je suis à la recherche d'une plus grande aisance dans ma négociation lorsqu'on est dans une salle de réunion. Non, pas du tout. C'est
complètement. J'ai eu beaucoup de déclics la nuit, le matin de l'attaque de Charlie Hebdo. J'étais dans la rue à côté. Il y a eu beaucoup de déclics dans ma vie qui ont fait que c'est-à-dire que j'ai échappé plusieurs fois à des actes terroristes. Et heureusement, ça m'a fait réfléchir. À chaque fois, je me disais, il faut peut-être aller structurer cette démarche. J'ai des prérequis, j'ai du soft skill jusqu'à aujourd'hui, je sais faire des choses, mais peut-être qu'il faut leur donner du sens, ou peut-être que ça m'appelle, peut-être que ça deviendra ma mission de vie.
C'est ça.
En tout cas,
on ne sait pas comment ça vient, ces choses-là, en fait.
Tout à fait. Et puis, dans mon entourage, je suis souvent appelée à aider mes amis, à aider mes clients dans leurs négociations personnelles. Donc, je me dis, c'est trop de demandes concernant la négociation. Peut-être qu'il faut aller chercher à se certifier. Peut-être qu'il faut aller chercher des hard skills, aller chercher des nouvelles méthodes qui vont faire que j'aurai une valeur ajoutée si je me spécialise en ça. Je ne vais pas vous dire que demain, si on m'attaque, je saurai négocier, je saurai sauver ma peau. Mais je veux tout simplement dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, ma démarche est structurée et je sais obtenir ce qui est juste pour moi et ce qui est juste pour l'autre.
Et alors justement, maintenant que vous êtes structurée, est-ce que vous auriez fait des choses différemment ?
Ah, clairement, clairement, beaucoup de choses.
Oui.
Clairement, clairement. Dans nos négociations, enfin, par exemple, dans la vie professionnelle, depuis que j'ai commencé à travailler, peut-être que j'ai fait les choses dans le bon sens. J'ai fait travailler le bon sens.
C'est ça.
Et surtout mes pratiques professionnelles. On ne nous apprend pas à l'école comment négocier ni comment vendre.
Absolument.
On nous apprend à préparer une vente, mais on ne nous apprend pas à comment gérer l'autre, à comment évaluer une réunion, à comment avancer dans une négociation. Et ça, c'est des choses qu'on apprend sur le tas en devenant commercial, en devenant après directeur commercial ou directeur général. Surtout moi, dans l'entrepreneuriat, personne ne nous apprend comment négocier, ni avec les équipes, ni avec les clients, ni avec l'administration, ni avec le fisc. C'est des choses qui s'apprennent sur le tas. Beaucoup le font très bien, beaucoup le font moins bien et beaucoup continuent à lutter. Mais il n'y a pas de démarche. Aujourd'hui, si je reprends les choses, si les choses devaient être faites autrement, oui, clairement, la démarche structurée allait créer de la différence, ça c'est sûr.
Ouais, ouais. Alors, Nagis, justement, fine négociatrice que vous êtes, entre l'inné et l'acquis, est-ce que c'est facile de vivre avec vous, de discuter avec vous ? Est-ce que c'est facile pour les autres ? Parce que j'ai l'impression que vous avez toujours une longueur d'avance.
C'est facile, oui. Je pense que oui, parce que quand même, on sait utiliser les bons outils sur les bons terrains. Donc oui, je reste quand même une personne très normale, très abordable. Je travaille d'une manière très sereine et très structurée avec tout le monde. Dans ma vie personnelle, ça allait un peu moins parce que je détecte quand ça va pas, je détecte quand ça manipule, je détecte peut-être consciemment aussi. Et donc, ça devient peut-être moins facile de m'aborder, mais en tout cas, de continuer dans une démarche si elle est malsaine.
C'est ça.
Voilà.
Un radar bien aiguisé.
Et de toutes les façons, c'est quelque chose qui me rend service et qui me plaît. Je me dis, si c'est un outil pour faire le ménage, ouais, va-t-on mieux. Voilà, on va garder autour de soi que les personnes bienveillantes, qui nous veulent du bien, qui avancent sereinement, qui veulent partager des choses, mais pas uniquement des personnes intéressées qui vont venir manipuler, obtenir des intérêts, etc.
Exact.
Si la relation se réduit à l'intérêt, je préfère le savoir au départ et je n'ai aucun problème à rendre service à l'autre, quel qu'il soit, mais sans passer par cette case de mauvaises intentions.
Exact. Alors, vous avez dit tout à l'heure, lors de la première attaque en France, en 2013, ce que vous avez dit clairement à celui qui vous a attaqué, en ayant un pistolet sur le front, c'est « je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je n'ai rien à perdre ». On a bien sûr sa famille, on a ses parents, on a ses amis, etc.
C'était ma manière à moi de le manipuler.
Oui.
Ne croyez pas. J'ai plus d'enfants que toutes les mamans du monde. Vous savez, je suis marraine de plusieurs orphelins.
Ouais.
Et j'ai plus de 800 enfants que j'adore et que j'apprécie que je suis. Maintenant, c'était ma manière à moi de le manipuler, de lui faire sentir que voilà, je n'avais rien à perdre pour qu'il se remette en question. Mais croyez-moi que non.
Alors, Nagis, ce choix de ne pas vouloir avoir d'enfants, dans notre société, que ce soit un choix fait par une femme ou que ce soit un choix fait par un homme, ça interpelle toujours. Est-ce que l'entourage continue toujours à vous questionner par rapport à ça ?
Alors, justement, mon entourage, il est différent de l'entourage marocain.
Okay.
Il est marocain en tout sauf en ça.
Okay.
C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de pression ni pour me marier ni pour avoir des enfants. Au contraire, j'ai eu des parents qui m'ont toujours préservés, protégés et qui ont toujours refusé les différentes demandes de mariage. Je ne sais pas, peut-être pour me protéger davantage, peut-être parce que je suis leur petite fille adorée, qui n'ont pas envie de me voir
partir.
De me voir partir.
Excellent.
Voilà.
Alors, une dernière petite question, Nagis Loudi. Aujourd'hui, vous êtes, comme vous l'avez dit, une caméléon professionnelle. Vous touchez à beaucoup de choses et beaucoup de choses de très haut niveau. La négociation, la communication, les médias, vous avez lancé l'Institut de formation. Bref, énormément de choses. Est-ce que vous auriez pu, en toute honnêteté, vous consacrer autant à exceller dans la formation et dans votre carrière avec un mari, des enfants?
Honnêtement, non. Pour être très honnête avec vous, non, parce qu'il y a une limite très claire entre le perfectionnisme Et voilà, et avoir c'est-à-dire la vie de famille et la vie professionnelle. Avec tout le respect que je dois aux femmes aujourd'hui actives, il y a bien sûr quelque chose sur laquelle on doit céder. Il y a des choses sur lesquelles il faut décider de lâcher prise si on veut voir évoluer l'une ou l'autre partie. Moi, je ne sais pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire, si je devais me consacrer à une vie de famille, j'aurais quitté ma carrière professionnelle, bien qu'elle soit dorée.
Complètement.
Complètement. Ah, complètement. Parce que je ne sais pas faire que dans le perfectionnisme. Et si j'ai décidé de faire autant de choses, j'aurais pu garder un seul job, peut-être me spécialiser dans une seule chose, et j'aurais géré à merveille un mari, une famille, etc. Mais je n'ai pas voulu parce que j'ai considéré qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles je dois travailler, et qui étaient aussi vitales pour moi que d'avoir une famille. Je ne me vois pas faire les choses autrement que comme je les ai vues être faites par ma mère. Et j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'elle a fait pour nous. J'ai beaucoup de respect pour l'éducation qu'elle nous a éduquée, pour la culture, pour mes premières leçons de politique, je les ai eues à la maison. Mes premières leçons de géopolitique, je les ai eues à la maison également. C'est-à-dire qu'elle ne faisait pas uniquement les devoirs avec ses enfants. On a beaucoup appris et on a appris énormément avec ma mère, et j'aurais aimé faire la même chose avec mes enfants, c'est-à-dire que j'aurais jamais sous-traité ni les devoirs, ni l'éducation, ni les voyages, ni l'apprentissage en général.
Justement, vous avez grandi dans un modèle. Est-ce que Nagis aurait pu créer son propre modèle ?
Mais il ne pouvait pas être différent. Ni bien loin de ce que j'ai appris, parce que j'ai beaucoup de fierté à le porter.
Vos amis vous trouvent un peu dur avec eux ? Par rapport à ces discussions autour des enfants ? Parce que j'imagine qu'autour de vous, il y a des...
Pas du tout.
Non.
Non, pas du tout. Au contraire, mes amis bénéficient de l'expertise gratuitement, de l'accompagnement de leurs enfants. Voilà. Non, pas du tout. Et au contraire, ils me disent, Nagis, tu as bien fait. Franchement, tu as bien fait de ne pas avoir d'enfants.
Merci Nagis Loudi. Merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous. Merci Lalla Yasmine. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.